Du master invité, du séminaire invité du master de sociologie depuis le début de l'année, où nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Larère.
Bonjour.
Bonjour.
Catherine Larère, professeure émérite de philosophie et grande spécialiste de la philosophie environnementale, dont elle a diffusé, je m'avance pas trop n'étant pas spécialiste du sujet, mais je pense que je peux quand même m'avancer en disant que vous avez diffusé à la fois en philosophie environnementale et en éthique environnementale, diffusé les principaux concepts et idées dans le contexte français en particulier. Alors, j'ai une liste de publications très significatives que je vais rapidement mentionner. Philosophie de l'environnement, 1997. Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique, 2015. Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, en 2020. Et plus récemment, non, c'est en 2017, l'ouvrage collectif « Les inégalités environnementales ». Autant de sujets qui nous intéressent très fortement ici, au sein du CEREV, au sein du master de sociologie, à plus d'un titre. J'aimerais également mentionner l'ouvrage « Le repère » qui vient de paraître à la découverte sur l'écoféminisme, dont tu as également beaucoup contribué à diffuser les concepts et les idées dans le contexte français de manière assez pionnière. Je vais m'arrêter là pour cette très brève présentation. Et donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de passer la parole à Catherine Larère pour une conférence portant sur écologie et démocratie. Donc, nous allons t'écouter pendant une heure environ, mais un peu plus si nécessaire, puisque nous avons une relative souplesse au niveau de la gestion du temps. Merci.
Merci beaucoup, Mélina. Et donc, rebonjour à tout le monde. Très contente d'être à Caen. Alors, je vais vous parler de démocratie et écologie. Je crois qu'on vous a distribué deux articles qui sont parus relativement récemment. Tous deux tirés, d'ailleurs, de la même expérience débat public sur des questions environnementales. Donc, l'essentiel de ce que je vais vous dire va être une reprise un peu allégée des deux articles. Je voudrais le présenter à partir d'une introduction un peu plus générale. Je suis philosophe, donc je me déplace dans le général sans trop de difficultés. Une introduction un peu plus générale sur les questions de démocratie et écologie pour situer un peu le type d'interrogation que je mène sur l'expérience à laquelle je vais faire référence. Je crois que la question démocratie et écologie me semble actuellement dominée dans, l'opinion publique, les médias et un certain nombre de réflexions plus théoriques par une sorte d'évidence du fait que avec l'écologie, on va à la dictature. Hein. Comme s'il y avait une incompatibilité, du moins une compatibilité difficile entre démocratie et écologie, telle que l'écologie ne puisse qu'exister à travers des mesures autoritaires. J'en donnerai trois directions dans lesquelles on a l'air de penser que c'est évident l'écologie ne peut se réaliser que finalement contre la démocratie. Il y a le retour insistant sur l'idée que ça passera par une restriction des libertés. Hein, quantité de débats qui ont lieu là-dessus. Il y a l'idée plus insistante que pour celle à laquelle je faisais référence, pour faire la transition écologique, pour changer de système, de énergétique, mais aussi plus largement de mode de vie, ben, il y aura une imposition autoritaire. Hein. Je passais hier dans une librairie, et un des derniers séries noires, hein, la collection de romans policiers, s'appelait « Pour sauver l'humanité, faut-il sacrifier la moitié ?» Et d'après ce que j'ai lu dans la quatrième de couverture, l'histoire... Alors, je ne sais pas où intervenait l'histoire policière, mais peu importe. Hein, c'était une sorte de Nicolas Hulot qui devenait président de la République et qui imposait autoritairement toute une série de mesures, si bien qu'il y avait la moitié de l'humanité qui disparaissait. Hein. Bon, ça rencontre un peu une idée générale, hein, si on pense que... Ce genre de livres se vendent, c'est que les gens pensent un peu ça. J'ajouterais aussi dans ces idées, hein, que la réalisation de l'écologie, la réalisation des programmes écologiques se fera de façon autoritaire. Mais on pourrait parler de la référence à la Chine, mais on pourrait dire aussi que je crois que ce qui est perçu là encore, je renvoie à une opinion publique un peu floue, hein, pour autant qu'elle existe, mais j'entendais ce matin à France Inter Xavier Bertrand dire « Depuis que les Verts ont imposé l'écologie punitive, enfin, tout va dans ce sens, hein, et ce qui est perçu comme violent, hein, ce sont Ce sont un certain nombre de groupes écologiques qu'on va s'empresser de qualifier de terroristes. Et bon, pour dire à quel point cette idée est implantée, hein, j'ai fait devant la très respectable Société française de philosophie le printemps dernier une conférence sur ce thème, et presque toutes les questions qui ont été posées après la présentation que j'avais faite, était pour me faire dire que la violence terroriste, elle était du côté des manifestants. Hein. Bon, c'était des profs de philo du secondaire et du supérieur. Bon, alors, je pense qu'on pourrait montrer exactement le contraire. Montrer exactement le contraire, montrer que de quel côté sont les manifestations d'autorité ? Eh bien, du côté de la répression policière et gouvernementale des manifestations, hein, où la police est là avant même que les manifestations ne commencent. Bon, l'histoire des soulèvements de la terre, de ce point de vue-là, est tout à fait emblématique. Que contrairement à l'idée qui soutient cette vision d'une écologie nécessairement autoritaire qui s'applique à des gens récalcitrants ou résistants, moi je dirais que du côté des mobilisations citoyennes ou populaires, c'est pas la résistance qu'il y a, c'est l'insistance. Hein. Qui est-ce qui manifeste pour obliger les gouvernements à appliquer des engagements qu'ils ont pris mais qui ne tiennent pas, hein, les engagements pris à la COP de 2015, à la COP 21 au Bourget ne sont pas appliqués, en particulier par le gouvernement français qui a été condamné trois fois, hein, pour non-tenue de ses engagements, et ça sur la base de mobilisation, que ce soit l'affaire du siècle, que ce soit la municipalité de Grande-Synthe, un peu plus au nord qu'ici, etc. À cela, j'ajouterais que, bon, si on peut dire, en gros, hein, on a derrière nous 50 ans de politique écologique, hein, ça fait depuis les années 70 qu'il y a des conférences internationales, qu'il y a des ministères de l'écologie ou d'autres noms. Je vous dirais 50 ans de politique écologique, c'est 50 ans d'initiative citoyenne. Pour moi, c'est une énorme différence entre ce qu'a été le mouvement social au 19e siècle et dans les deux tiers du XXe siècle, le mouvement social tel qu'il se constitue au XIXe siècle, qu'il soit réformiste ou révolutionnaire, est un mouvement qui est en demande d'État. Et soit qu'il demande à l'État des réformes, soit Lénine, l'État et la Révolution, qui pose que la Révolution doit passer par l'État, et puis le long processus qu'on a vu d'intégration, finalement, des syndicats aux instances étatiques. Alors que 50 ans de mobilisation écologique, c'est 50 ans de nouveautés citoyennes sous des formes extraordinairement différentes qui peuvent être procédurales, hein, c'est-à-dire qu'on peut y avoir des demandes, ce qu'on appelle la démocratie délibérative ou la démocratie participative, c'est-à-dire des formes de procédures démocratiques qui ne passent pas par les canaux habituels de la démocratie représentative, mais je dirais tout en temps des démocraties comme une autre façon de vivre, hein, d'autres formes de vie pour manifester sa capacité à mener sa vie et à prendre des décisions. Hein, je reprendrai là, je ne sais pas si vous connaissez, là, ce que Sandra Laugier et Albert Augien disent de la démocratie comme forme de vie. Hein, l'idée que la démocratie, ce n'est pas simplement un certain nombre d'institutions, suffrage universel, hein, bon, c'est aussi des formes de vie démocratique qui sont des formes, bon, Albert Augien appelle des initiatives citoyennes ou l'autonomie citoyenne. Donc, bon, je vous dis, il y a un peu, enfin pour moi, il y a un peu, pour moi, tel que je le vois, mais il faut le montrer, hein, il y a un peu cette illusion de l'autoritarisme écologique et cette réalité de la mobilisation démocratique sur des questions écologiques. Mais bon, je ne peux pas vous l'asséner comme ça, il faut essayer de mettre ça un peu à l'épreuve. Et je crois que pour ça, on ne peut pas se borner, vous avez toute une série de réflexions. Bon, je vous dis, je suis philosophe, donc dans mon domaine philosophique, mais je pense qu'on trouverait l'équivalent en sociologie, toute une série de réflexions qui disent, bon, la question de démocratie et écologie, c'est la question de comment faire fonctionner les institutions démocratiques en prenant en compte ce qu'on appelle les limites, hein, ou la finitude. L'idée que l'écologie nous donnerait un certain nombre de limites au développement, les limites de la planète Terre, ou qu'on nous aurions pris conscience de notre finitude. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, ben, regarde comment vont fonctionner les institutions. Moi, je crois que ça ne suffit pas. Et je pense que pour mener une vraie réflexion sur démocratie et écologie, je crois qu'il faut voir la façon dont est constitué, comment ça se présente la politique en matière écologique. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que dans les questions politiques écologiques, il me semble qu'il y a deux caractéristiques. Alors, il y a celle que je viens de vous dire, moi, qui me frappe beaucoup, là où, par rapport à ce qui apparaît au XIXe siècle, la question sociale, c'est-à-dire que le marché ne réglera pas tout pour aller vite, hein, que la main invisible ne règle pas tout et qu'il faut constituer une force sociale. Autant là, je redis, hein, c'est un appel à l'État, autant je trouve que ce qui accompagne, et il y a des mobilisations écologiques, il y en a beaucoup, ce qui accompagne, c'est au contraire une inventivité démocratique, une certaine méfiance vis-à-vis de l'État. Hein. Et de ce point de vue-là, ça me paraît une caractéristique très nouvelle, sur plusieurs dizaines d'années, des questions écologiques en situation démocratique. La deuxième caractéristique, et je vais la mettre en premier, c'est l'importance que joue la dimension scientifique et technique dans les questions écologiques. Là aussi, je crois que, bon, c'est pas la première fois qu'on fait appel à des scientifiques, bien évidemment, non. Hein, mais je crois que jamais, à mon avis, la science n'a joué un tel rôle dans l'élaboration de politiques. Hein, les années 70, quand je dis les années 70, on peut faire démarrer une politique écologique, c'est sur la base de trois mobilisations. Au niveau global, des institutions internationales, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, met en place son PNUE, son programme des Nations Unies pour l'environnement en 1972. C'est au même moment que se font déjà de grandes mobilisations scientifiques, la première moins connue que d'autres, mais c'est l'appel de Menton en 1971. C'est 3500 scientifiques qui signent un texte, comme il y en aura plein après, pour dire que ça va mal, mais que si on s'y met un peu, on va y arriver. Bon, et que se mettent en place les mobilisations des scientifiques pour mettre au point un état scientifique du monde. Puis la troisième mobilisation, c'est les grandes ONG internationales, type Greenpeace, WWF, UCN, etc. Mais donc, le rôle que joue l'importance des scientifiques dans l'élaboration des politiques écologiques. Et je crois qu'on en a actuellement un exemple tout à fait représentatif dans l'actuel COP28 qui se tient, comme vous savez, à Dubaï. Alors, je ne ferai aucun commentaire sur la tenue dans la capitale du pétrole d'une assemblée qui vise à la réduction de l'utilisation de ce genre d'énergie. Mais vous avez typiquement cette rencontre entre des experts scientifiques, constitution du GIEC à partir de 1988, groupe intergouvernemental d'experts du climat, qui rencontrent des décideurs politiques. Et vous avez, me semble-t-il, exemplairement ce qui se passe dans d'autres domaines, l'IPBES ou IPBES, si vous préférez, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, de cette rencontre qui s'est faite entre des scientifiques érigés en experts et ayant un contact direct avec des décideurs politiques. Or, si on peut se dire que ça, c'est la forme dominante de prise en charge de la question écologique, alors je me suis placé au niveau global, on peut remonter la même chose aux différentes échelles, régionales, nationales, territoriales, etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un traitement démocratique possible d'une telle façon de prendre en charge les questions écologiques? Pourquoi je pose la question? Parce que experts et démocratie, c'est deux choses assez différentes. Alors, est-ce qu'on peut cette rencontre des experts et des décideurs aux différents niveaux se prennent des décisions, est-ce qu'elle peut s'accommoder de la démocratie? Moi, je poserais plutôt la question comme ça. C'est pourquoi, pour mettre un peu à l'épreuve ce que je vous présentais, la divergence d'opinion sur démocratie et autorité, démocratie, écologie et autorité au début, je voudrais me référer à ce qu'on appelle la démocratie environnementale, au sens où ce qui est appelé démocratie environnementale est justement une tentative officielle pour lier la rencontre expert-décideur à des interventions démocratiques. Est-ce que la démocratie peut intervenir dans le règlement de ces questions ainsi élaborées? Alors, c'est pour interroger la démocratie environnementale que j'ai pris, parce que même philosophe, je peux faire du terrain, la philosophie de terrain, on en parle de plus en plus. Donc, une référence de philosophie de terrain qui est le fait que en 2018 et 2019, j'ai fait partie je vais vous expliquer de quoi il s'agit, d'une commission particulière du débat public qui a été chargé d'organiser un débat public, je vais revenir sur tout ça, sur, alors On peut être sûr qu'on rentre dans la technocratie quand on se met à parler par sigle, donc je suis en train de rentrer dans la technocratie, du PNGMDR. Le PNGMDR étant le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui donc était soumis à débat public. Alors c'est ce que la participation à cette commission particulière du débat public, donc la participation à un grand nombre, un nombre important de débats publics à travers toute la France, entre 2018 et 2019, c'est cette expérience finalement que je voudrais interroger pour voir si procédures de traitement des questions scientifiques et techniques qui font écologiquement problème, pour aller vite, peuvent ouvrir à certaines pratiques démocratiques. Alors les deux articles dont les références vous ont été données, qui vous ont été distribués, portent sur... à deux occasions où j'ai eu de réfléchir sur ce qu'a représenté, du point de vue de l'exercice supposé de la démocratie, ce débat public auquel Frédéric Lemarchand, ici présent, avait participé dans le débat qu'on avait fait à Caen. Donc, le plan que je vais suivre... C'est dans un premier temps, je vous ai parlé de démocratie environnementale, je vous ai parlé de débat public, je vous ai parlé de commission particulière au national du débat public, je vais un peu expliquer de quoi il s'agit. Et une fois que vous aurez un peu présenté la question, je voudrais examiner, alors je me référerai plutôt au deuxième article, celui qui est intitulé « La question de la nature en démocratie ». Bon, l'autre, c'est... entre science et démocratie, conflit des compétences et débat public, c'est les mêmes questions. Donc je reprends celui sur la nature en démocratie, mais si vous avez lu les deux articles, vous pouvez les lire, ou si vous n'avez lu qu'un article, vous ne serez pas trop perdu. C'est finalement des questions, les mêmes questions qu'il s'agit, la question étant... comment est-ce qu'on confronte finalement les compétences démocratiques des individus qui participent, des individus qui participent au débat public, et d'autre part, les compétences scientifiques, des experts qui sont finalement les références de ces débats. Donc, je voudrais montrer comment c'est à partir de trois termes qui ont émergé dans les débats, donc, que nous, la commission particulière du débat public, avons mené d'avril 2019 à septembre 2019, parce que le débat devait démarrer début 2019, mais en 2018, il y avait eu la contestation des Gilets jaunes, et donc... Début 2019, il y a eu le grand débat lancé par le président de la République et le Premier ministre. Et donc, on nous a dit qu'il ne peut pas y avoir deux débats en même temps. Donc, vous commencez quand l'autre finit. Donc, ça a été légèrement décalé. Mais c'est pas très important. Donc, trois termes qui ont... Ça nous a simplement permis de préparer le plus le débat. Il avait besoin d'être préparé. Trois termes qui ont émergé au cours de ces débats... C'est la question de la confiance, la question du territoire et la question de la gouvernance. Ce n'est pas des mots que moi j'apporte, c'est pas non plus même des mots que nous, collectivement, commission particulière du débat public, nous étions une douzaine. Commission particulière du débat public avions décidé, ça a vraiment émergé des débats et c'est pour ça que je les prends comme guide dans ma présentation. Donc, première chose quand même, qu'est-ce que c'est que la démocratie environnementale ? Disons qu'on entend, l'expression a une existence officielle, si je puis dire, par un certain nombre de textes publics que je rappellerai. Bon, qu'est-ce qu'on entend par démocratie environnementale ? ça concerne trois droits, hein, la reconnaissance de trois droits, donc là on est dans la démocratie effectivement, pour tous les habitants concernés par un projet environnemental d'envergure. Alors bon, si je prends l'exemple que je vais vous donner, c'est nationalement qu'on décide de la façon dont, et au niveau du gouvernement, que, soi-disant du pouvoir législatif, qu'on décide de la façon dont vont être administrés les déchets nucléaires. Et donc, pour tout habitant, toute personne qui se trouve en France se trouve concernée, hein, par la façon dont on dispose des déchets. Donc, c'est le droit pour tous ceux qui sont concernés à l'information, à, premier droit, deuxième droit, à la participation à la décision sur ces questions et au contrôle de son application, et troisième droit, un droit d'accès à la justice, c'est-à-dire le droit pour tout habitant, hein. On n'a pas besoin d'être citoyen français pour ça, le droit pour tout habitant d'avoir accès à un traitement judiciaire de ces questions, d'assurer un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment réparation et recours. Alors en fait, bon, ce qu'on appelle démocratie environnementale, c'est ces trois droits, mais on les sépare un peu. Hein, moi, je vais vous traiter essentiellement de l'information, de la participation à la décision et au contrôle de l'application, les recours judiciaires étant une question traitée un peu séparément, donc j'en parlerai pas. Alors je vous disais, c'est quelque chose qui a une existence légale, hein, de droit, par une série de textes qui ont valeur juridique. Alors, le premier, c'est la déclaration de Rio en 1992. En 1992, bon, il y a un bon nombre ici qui n'étaient pas nés. C'est tenu à Rio de Janeiro un sommet de la Terre. C'est pas le premier, c'était le troisième. C'est tenu un sommet de la Terre qui a discuté des questions écologiques de l'époque et d'où. De cette réunion donc de tous les chefs de gouvernement, aux représentants de gouvernement, sur les questions globales écologiques, sont issus un certain nombre de textes. Et bon, par exemple, puisqu'on parle de Dubaï et de la COP28, hein, COP, c'est conférence des parties, et ces parties, c'est les parties signataires à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a été adoptée en 1992. Donc en 1992, les différents, à peu près tous les États qui sont réunis à Rio, adoptent un règlement, hein, un texte sur la façon de traiter globalement des questions climatiques et avec une des décisions de cette Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ça a été que tous les ans se tiendrait une conférence des parties signataires de ce traité, et non signataires, parce que les États-Unis n'en ont pas été signataires, et ils ont toujours participé au COP. Bon. Mais par ailleurs, je reviens à la question de la démocratie environnementale, parmi les textes adoptés à Rio, en 92, donc il y en a d'autres, il y a ce qu'on appelle la déclaration de Rio qui... Alors, c'est par exemple la déclaration de Rio qui va donner un contenu au développement durable. Hein, l'idée des trois piliers environnemental, économique et social, c'est dans le texte de la déclaration de Rio. Mais entre autres choses, la déclaration de Rio, il y a un article. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle de la soft law, hein, sa valeur juridique. Il n'y a pas d'instance pour obliger à l'appliquer, mais ce sont des textes juridiques donc, qui ont valeur contraignante. Donc la déclaration de Rio en 92 adopte l'article selon lequel, je cite, « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. » Hein, au niveau qui convient, ça peut être international, régional, national, différents degrés territoriaux. Alors, je vous dis, c'est du droit, mais ce n'est pas du droit qui trouve en lui-même sa propre application. Donc, un peu plus tard, en 1998, un nombre, je n'ai pas la liste là, mais un nombre relativement important de pays réunis à Aarhus. Aarhus, je crois que c'est en Norvège.
Danemark,
merci. Réunis à Aarhus, donc, le 25 janvier 1998, et les paragraphes 2, et qui vont être ratifiés par un certain nombre de pays, dont la France, et les paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 6 d'application directe, alors là, on passe à l'application, hein, et impose aux autorités publiques d'informer le public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé. Vous voyez, le droit à l'information, hein, s'il y a un ensemble de décisions qui ont des conséquences environnementales d'envergure, les autorités publiques sont dans l'obligation d'informer, de donner à la population la possibilité d'être informée sur ces questions. Alors, c'est repris, hein, c'est toujours dans le texte juridique, c'est comme ça, on descend toujours les niveaux. C'est repris en France par la Charte de l'environnement, hein, adoptée en 2005 et incorporée à la Constitution. Charte de l'environnement, régie par le Code de l'environnement, et donc qui reprend et commence à développer, enfin à appliquer, si vous voulez, cette idée générale que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement, c'est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Et par ailleurs, alors là, je pourrais y passer toute la séance, donc je saute par-dessus, mais toute une des procédures assez longues et en fait qui se mettent en place au moment de la présidence Mitterrand et qui vont aboutir à ce qu'on appelle la Commission nationale du débat public, c'est-à-dire une instance indépendante qui est chargée d'organiser, de mettre en place, de faire se dérouler des débats publics, alors d'envergure plus ou moins grande, sur des questions, ce que je vous disais, quand des processus décisionnels ont des conséquences environnementales importantes. Alors moi, je vais vous parler du PNGMDR, mais je crois, Milena, que tu faisais allusion.
Oui, on posera la question dans la discussion, c'est-à-dire que vous êtes en une concertation actuellement avec Sylvie Le Calvet sur que les étudiants du Bacardi savent très bien de témoigner, de mettre en lien les deux questions plutôt dans la phase de la
discussion. Donc, c'est dense. Alors, Il n'y a pas de gens qui font des études de droit ici. Non. Bah, si vous rencontrez, vous saurez que dans ce genre de situation juridique, enfin, au niveau, oui, du droit, la question importante, c'est la saisine. C'est qui décide, hein. Bien, la CNDP peut décider elle-même que tel processus décisionnel a des conséquences environnementales importantes et qu'il importe de faire un débat. Hein. C'est en ce sens qu'elle est indépendante, c'est elle qui choisit ce sur quoi il y a débat. Alors, bon, on va parler de ce qui se passe pas loin d'ici, mais il y a sur toutes les façades maritimes françaises actuellement des débats publics en cours sur les éoliennes en mer. Donc ça existe. Hein. Alors moi, j'ai choisi parce que j'y ai participé et que donc j'ai pas mal travaillé finalement, de parler, alors je reviens à ce sigle abominable, hein, le PNGMDR. Donc ce qui se trouve, c'est que la France, comme vous savez sans doute, est une puissance nucléaire. Qui a un nucléaire à la fois civil et militaire. Bon, le nucléaire militaire, on n'en parle pas trop, mais en tout cas, ça ne nous a pas été confié. Mais le nucléaire civil, donc les centrales nucléaires, ça produit des déchets. Et ces déchets, il faut s'en occuper. Et j'y reviendrai plus tard, mais en tout cas, depuis 1991, il y a la loi Bataille sur les déchets et la façon dont on va s'occuper des déchets nucléaires. Et ça, c'est réglé par un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. J'ai encore une petite chose à vous dire pourquoi on distingue matière et déchets, puis ça sera fini. On passera aux choses mêmes. Qui est bon était d'abord élaboré pour 3 ans et puis maintenant pour 5 ans et qui donc alors c'est compliqué la question des déchets, je vais y revenir, c'est une question technique très complexe parce qu'il n'y a pas qu'une sorte de déchets, il y en a quantité, hein. Ceux dont on parle beaucoup, dont vous avez sans doute entendu parler, hein, où il y a c'est plus qu'un projet, je crois que c'est de plus en plus adopté, hein, d'enfouissement des déchets à Bure, hein, dans l'est de la France. C'est une partie des déchets. Alors les déchets sont classés suivant leur degré de radioactivité et la durée de cette radioactivité. Et donc ces déchets qu'on enfouit à Bure, c'est les déchets à haute radiation et à vie longue. Autrement dit, ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps pour lequel il faut que les déchets aient perdu la moitié de leur radioactivité, la demi-vie est estimée à peu près 500 000 ans. Pour vous donner une référence, l'arrivée d'Homo sapiens, c'est moins 500 000, à peu près. Pour vous dire l'extrême longueur. Mais il y a toutes des quantités d'autres déchets. Alors ça, c'est ce qui sort des réacteurs. Hein. C'est l'uranium transformé, et transformé en déchets. Mais il y a dès que vous avez tout ce qui arrive dans une centrale nucléaire est considéré comme sous la catégorie de déchets. Hein. Donc il y a si on démantèle une centrale, c'est des déchets. Et puis, il y a des tas... Bon, je ne vais pas rentrer dans un cours sur les différents types de déchets, mais pour vous dire, ça demande un plan national qui entrepose, choisit, prend les procédures d'évaluation, qui ça fait intervenir EDF, qui est en charge des centrales, ça fait intervenir Orano, qui intervient aussi là-dedans. C'est à la fois, bon, privé, enfin, quasi privé, oui, privé et très public. Donc, c'est une procédure très complexe. La dernière chose que je voulais vous dire, et puis je vais en venir à l'examen des choses, la dernière chose que je voulais vous dire, pourquoi matière et déchets ? Ben, c'est une spécialité française, il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui font ça, qui est le retraitement des déchets nucléaires. C'est-à-dire qu'une partie de ce qui est issu une fois que la réaction a été faite et qu'on a fait émerger de l'énergie, une partie des matières qui restent, les matières irradiées qui restent, sont considérées comme retraitables. Et certaines sont retraitées. Hein, il y a l'usine de La Hague qui n'est pas loin là-dessus et qui retraite. Il y en a qui sont envoyées ailleurs, d'ailleurs, pour être retraitées. Les autres pays ne font pas ça, hein. C'est un peu une invention française, hein, du CEA, hein, de la Commission de l'énergie atomique. Ça a beaucoup servi au départ à lier l'industrie civile nucléaire et l'industrie militaire, hein, parce qu'on arrêtait la fusion au moment où on pouvait récupérer une matière qui pouvait servir à préparer des bombes. Donc il y avait, de ce point de vue-là, la nécessité d'arrêter le processus à un moment donné. Bon, après, mais bref, l'avantage, c'est que dans le bilan de EDF, les déchets sont mis du côté du passif et les matières, donc ce qui est considéré comme retraitable, il y a une toute petite partie, en fait, qui est retraitée, est mis dans les actifs. Donc, pour le bilan d'EDF, avoir des matières, ça permet d'éviter le passif. Bon, alors, voilà donc, vous voyez, c'est des questions qui sont très techniques, hein, je laisse un peu de côté leur technicité, mais qui, effectivement, engagent, hein, impliquent tout le monde, qui concernent tous les habitants de la France. D'ailleurs, pour pour en faire prendre conscience, le France Nature Environnement, qui est une association environnementale, imaginait qu'on devrait donner à chaque Français une petite valise avec des déchets dedans.
Hein, alors bon, mais bien isolé.
En lui disant, ben, vous voyez, ça, c'est les déchets qui vous reviennent, ben, il faut que vous trouviez moyen d'en faire quelque chose pour bien montrer qu'on était tous concernés. Donc, voilà la question qui a été débattue. Je vous dis, je vais y revenir plus précisément. Et donc, à partir de là, on a fait, j'ai plus le nombre, mais on en a fait une cinquantaine de réunions. Je voudrais pas vous dire bêtises, mais bon, on a fait ça de façon constante d'avril. Enfin, sinon, il y a eu les élections européennes, alors il a fallu arrêter un moment, mais après, on a repris. Et où est-ce qu'on a fait des réunions ? Ben, on a fait des réunions, d'une part, dans les grandes métropoles, hein, du genre Lille, Lyon, on n'a pas fait à Marseille, Bordeaux, près soit des centrales, soit des usines de retraitement, soit des usines, des lieux d'enfouissement. Hein. Alors c'est comme ça qu'on a fait une à Caen, hein, en proximité de la Hague, et puis du caractère très nucléaire de la Normandie. C'est comme ça qu'on en a fait une près de Bure, hein, et on y est allé entouré par deux voitures de gendarmerie devant et deux derrière. Qu'on a fait ça, soit des réunions qu'on a. Alors, toutes les réunions se passaient de la même façon, c'est-à-dire qu'il s'agissait. Bon, débat public, c'était ouvert à tout le monde, mais il s'agissait de présenter ce que je viens de vous résumer rapidement. Hein, et qui est-ce qui présentait ? Ben, il y avait d'abord ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui était la direction générale du ministère de l'écologie, enfin, de la transition écologique, sur l'énergie, l'ASN, qui est l'agence de sûreté nucléaire, donc qui était ceux qui élaborent et ont en main ce plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, accompagnés et aussi pour présenter. Alors, notre rôle à nous, c'était de faire en sorte qu'il y ait la présentation aussi équilibrée. On est censé être neutre, la commission particulière du débat public, et qui donc était présenter les questions de la façon la plus équilibrée possible. Et donc, il y avait les maîtres d'ouvrage, il y avait les autres organismes à la fois publics et privés qui s'occupent du nucléaire, hein, ce qu'on appelle parfois les nucléocrates. Donc, il y avait, en plus de l'ASN, il y avait l'IRSN, hein, des trucs de sûreté nucléaire. Il y avait l'ANDRA, qui est en charge du projet CIGEO. Le projet CIGEO, c'est le projet d'enfouissement à Bure. Il y avait des gens d'EDF, il y avait des gens d'Orano. Et puis, il y avait des gens des grandes associations environnementales. Hein, j'ai cité France Nature Environnement, j'ai cité... Greenpeace, j'ai cité WWF, plus des associations locales. Et donc, à partir de là, il y avait un débat devant. Bon, je dis que c'était ouvert à tout le monde, mais en fait, qui est-ce qui venait ? Ce n'était pas ceux qui voyaient de la lumière dans la salle et qui se disaient « on va aller voir ce qui se passe hein. ». En général, c'était des gens qui étaient intéressés. Et alors, j'y reviendrai, les débats sur les questions... nucléaire sont des débats extraordinairement clivés, hein, et où il y a Il y avait aussi dans la, alors il y avait dans la salle des représentants des ONG anti-nucléaires, mais il y a aussi des ONG pro-nucléaires, hein, qui sont moins connues, mais qui peuvent venir faire du bruit dans la salle pour soutenir les représentants d'EDF ou d'Orano. Et donc, bon, c'est là-dedans que le débat se passait, et j'y reviendrai, se passait plus ou moins bien, parce que c'est je vous dis, c'est des questions extrêmement clivante. Et bon, ce qui est intéressant, et j'y reviendrai aussi, c'est qu'en même temps qu'on faisait ces débats, alors à la fois dans une présentation générale, en général dans les grandes métropoles, ou sur des questions plus particulières, par exemple à Caen, hein, et j'en parle parce que c'était moi qui avais organisé le débat, on s'intéressait aux questions éthiques, morales, si vous voulez, posées par la question des déchets nucléaires, et en particulier la question des générations futures. Il y a un livre du spécialiste de romans policiers, Mankell, le Suédois, là-dessus, qui est tout à fait remarquable. C'est un livre où il raconte, il apprend qu'il a un cancer, et au moment où il s'intéresse justement à l'enfouissement, il y a un projet finlandais d'enfouissement des déchets, et il enquête à peu près sur les deux à la fois, et il a une façon de se demander... Mais c'est quoi les générations futures, qui est extrêmement intéressante, et c'est ce qu'on avait essayé de faire à Caen, hein, où on avait mis les gens à travailler, après une présentation générale, on avait mis les gens à travailler en petite table, et on leur avait dit, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, 100 ans, 500 ans, 5000 ans? Qu'est-ce que ça veut dire de parler de 500 000 ans? Et si je dis 5000 ans bêtement, c'est que 5000, 500000, pour nous, ça ne fait plus de différence. Hein. Ça n'a plus de sens. Donc, il y a tout un problème de qu'est-ce que c'est de parler des générations futures, avec quelle représentation du temps on a, et quel rapport il y a entre la représentation humaine du temps et puis le temps physique, hein, de durée des déchets. Donc, bon, voilà. Et après, donc, c'était comme ça qu'on faisait les débats. Et c'est donc dans ces débats que sont émergés, on l'a remarqué, hein, on enregistrait les débats, puis après, entre deux débats, on lisait la transcription, et donc on voyait ce qui émergeait. Et c'est pour ça que j'ai retenu ces trois mots qui ont émergé: confiance, territoire, gouvernance, parce que il me semble que c'est des mots qui permettent d'aborder ce que c'est, hein, la question, est-ce que ces débats publics, est-ce qu'on peut les qualifier de démocratiques, hein, est-ce qu'il y a eu, est-ce que ça donne place à la démocratie? Alors, commençons par confiance. Alors, ce qui a été, si vous voulez, le mot, donc, on l'a vu, on le voyait dans les transcriptions, le mot revenait sans arrêt. Et à tel point qu'on a fait une sorte de petite réunion intermédiaire, on a demandé à des sociologues, enfin il y avait Albert Augien, il y avait Jean-Pierre Dupuis, puis il y avait des anciens responsables du CNPN, de la CNPN, de la Commission nationale du débat public, CNDP, pardon, et sur la confiance, et on s'est rendu compte que, enfin, et alors si vous voulez, Ce petit séminaire sur la confiance, on l'a fait, bon, nous, les membres de la CPDP, et puis on avait invité ce que notre présidente appelait la caravane du tour, c'est-à-dire ceux qui suivaient tout le débat, hein, les directeurs généraux du ministère, ASN, etc. Bon, on s'est rendu compte que pour la majorité de ces participants institutionnel au débat, la confiance était un état. La confiance, c'était ce qu'on pouvait mesurer, la situation dans laquelle ils étaient les gens, ils avaient confiance ou pas confiance. Et les sociologues et autres qu'on a fait venir ont dit, mais non, c'est pas ça la confiance. La confiance, c'est pas un état, hein. La confiance, c'est une relation. On parle de confiance quand on délègue à quelqu'un une tâche dont on sait à l'avance qu'il peut, il peut ne pas la remplir. Mais justement, la confiance, c'est de dire, ben, j'assume qu'ils puissent ne pas la remplir. L'exemple qu'avait pris Albert Ogier, qui était tout simple, hein, c'est quand je fais venir, j'ai des enfants, des petits-enfants, et je fais venir un babysitter, et je vais, moi, ailleurs, eh bien, lui faire confiance, c'est se dire, ben, je lui délègue la tâche de garder mes enfants, je sais qui ou elle peut faire une bêtise, mais je lui fais confiance. Hein. Donc la confiance, c'est... Alors, vous voyez que suivant qu'on a une conception de la confiance ou l'autre, on arrive à deux interprétations complètement différentes et qui, me semble-t-il, rendent bien compte d'un clivage qu'il y avait dans ces débats. D'un côté, l'idée qui, je vous dis, était l'idée des maîtres d'ouvrage, qui était l'idée d'EDF, que ben, ce qu'il faut, c'est, quand on a l'impression que la confiance est un état et qu'on trouve que ça baisse un peu, ben c'est de faire en sorte pour qu'il se rétablisse. Hein. Alors, on peut dire à ce moment-là, on va remplir le devoir d'information. C'est même pas sûr, parce qu'on sait, on peut rassurer en disant « tout est sous contrôle, hein, ne vous inquiétez pas ». Donc, il y a cette façon de comprendre la confiance, qui est, je dis, très... Bon, si vous regardez, si vous vous mettez à écouter, à lire ou à écouter comment on parle de confiance, c'est le plus souvent comme ça. Hein. Et donc, à ce moment-là, si on a cette compréhension de la confiance, ça ne remplit qu'une des fonctions de la démocratie environnementale, et encore, c'est le droit à l'information. Hein. Si on a... Et à mon avis, qui est une... Bon, c'est pas parce que je prends l'autorité de sociologue pour dire la confiance, c'est pas un état, c'est une relation, mais qui me paraît quand même beaucoup plus fondée. À ce moment-là, d'abord, la confiance, c'est une relation, c'est quelque chose d'actif. Et puis, eh ben, la confiance, ça peut se remettre en question. Hein. Alors, quelle relation ? Ben, c'est là que je trouve que c'est... c'était effectivement particulièrement important dans ce débat sur le PNGM, DR, où l'on voit en place ce que Lascoum, Barthes et Calon, dans leur livre sur, j'en cherche le titre, enfin sur les forums hybrides, Agir dans un monde incertain, merci Frédéric, ce qu'ils appellent la double délégation. Hein. En matière, et on le voit avec la mise en place du PNGMDR, comment ça fonctionne, c'est l'ensemble de la population française délègue à la fois la tâche scientifique au CEA et à tous les entrepreneurs et ingénieurs du nucléaire. Hein. Elle peut pas, on ne le fait pas nous-mêmes, hein, donc on leur délègue la tâche de mettre en place un nucléaire sûr, et d'autre part, délègue politiquement à ses représentants la tâche de surveiller et de veiller à la bonne exécution. Donc, on se trouve sur ces questions écologiques, scientifiques et techniques devant un problème de double délégation et de possible remise en cause de cette double délégation, redéfinition de cette double délégation. Et c'est en ce sens que la question de la confiance est effectivement centrale. Hein, on peut penser que ces moments de débat public, c'est un moment justement de vérifier si c'est à bon, de façon justifiée, qu'on a ainsi doublement délégué, et je dirais, son expertise scientifique et son pouvoir politique de décision. Donc, c'est là aussi donc, que se pose bon, ce que j'avais introduit de façon générale au début, ce que j'ai appelé les problèmes de compétences. Hein, parce que ce qu'on voit aussi, et ça c'est important justement dans la participation des ONG ou même d'experts quasi indépendants, une des façons de répondre au manque de confiance devant les experts institutionnels, c'est de mettre en place d'autres types d'expertise. Et que ce soit France Nature Environnement, que ce soit Greenpeace, ont leurs propres experts, vous avez des alors qui se présentent pas vraiment comme des experts indépendants comme Négawatt et Yves Marignac, hein, qui est un des spécialistes de ces questions, mais qui se sont formés comme experts hors des relations institutionnelles, hors de ce tête-à-tête entre l'expert et le décideur, par lequel c'est une façon d'y répondre. Pas la meilleure, mais c'est une façon d'y répondre. Et de ce point de vue-là, un des participants de cette commission particulière du débat public, qui allait plus tard être le président d'une autre commission particulière du débat public sur les questions nucléaires, qui est Michel Badré, avait inventé quelque chose qui nous a tous paru extrêmement important et qui a beaucoup plu, qui a été de réunir tous ces types d'experts, institutionnels et non institutionnels, et non pas d'essayer de les mettre d'accord, parce qu'on ne les mettra pas d'accord, mais d'essayer de les mettre d'accord sur leurs désaccords. C'est-à-dire de sélectionner, alors sur, si vous voulez, la question enfouissement ou garder sans les enfouir, sur la question de la distinction entre matière et déchets, enfin sur toute une série de questions très très techniques liées à la question des déchets, de voir ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord. Hein, et donc ça supposait des allées et des retours, hein, c'est pour ça que je disais que c'était pas mal les gilets jaunes, parce que ça a permis de travailler plus, faire en sorte qu'ils disent, bon, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Pourquoi ? Pour empêcher, si vous voulez, qu'il y ait une confusion entre des débats techniques et des débats politiques, hein, que derrière des débats techniques ne se cachent pas des débats politiques, donc que le débat politique puisse être le plus ouvert possible. Donc, y avait eu ça. Alors, j'ajouterais, bon, toujours sur cette question de la confiance, comme une question, finalement, mettant en cause, bon, ce que je reprends à Calon, Lascoum et Barthes, de la double délégation, et comment ça conduit à que des experts non institutionnels se forment. C'est quand même pas, en dehors du fait qu'ils ne sont pas en accord, ils n'ont pas du tout la même expérience, je dirais, du débat public. Hein, les experts institutionnels, il y a une telle tradition du secret du nucléaire en France qu'ils sont habitués à discuter entre eux et ils sont extrêmement mal à l'aise dans les débats publics. Les experts indépendants, hein, type Yves Marignac, mais bon, il y en a d'autres, au contraire, ont une grande habitude des débats publics et une grande capacité de présenter les choses de façon à ce que le public comprenne. Donc, de ce point de vue-là aussi, ça montre une certaine importance des discussions. Est-ce que ça va à la... Ben, finalement, je ne parle plus longtemps que je ne pensais. Ça va ? Je peux continuer ? Je continue sur le deuxième terme, qui est le terme de territoire. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est ressorti, qu'on a vu dans les débats. Je me souviens en particulier d'un débat à Tours, qui était sur un certain type de risque, peu importe, et où... Bon, là, alors si vous voulez, dans la salle, vous aviez, comment dire, des camps marqués d'avance. Vous aviez aussi un certain nombre de citoyens un peu plus ordinaires qui venaient, et ces questions venaient plus des citoyens plus ordinaires qui s'animaient quand ils posaient la question, et comment ça se passe chez nous, hein. Comment ça se passe ? Oui, bon, vous nous présentez le PNGMDR au niveau national, c'est bon, très 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 bien, mais chez nous, là, au bord de la Loire, ça se passe comment ? Et même question dans tous les débats, et en particulier, on a fait aussi des espèces de présentations du débat dans des villes où on n'organisait pas un débat, mais où pendant une après-midi, on distribuait des tracts, des présentations du débat. Et là aussi, les gens venaient nous demander, mais pourquoi vous n'avez pas organisé un débat ici, chez nous, au Mans, ou bon, un endroit de ce genre. Et donc, cet intérêt pour comment ça se passe chez eux, qui, très vite, on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a appelé, d'ailleurs, de façon dépréciative, le NIMBY, hein, Not in My Backyard, généralement accusé comme une façon que les gens, égoïstement, ne s'occuperaient que de ce qui se passe chez eux et puis se moqueraient pas mal de ce qui se passe ailleurs. C'était absolument pas ça. Hein. C'était là aussi, c'était deux conceptions différentes. Et là, on a été aidé en particulier par un géographe de l'ELS de Lyon qui s'appelle Romain Garcier et qui a étudié justement à quel point le nucléaire en France n'avait pas été territorialisé. À quel point c'était une question nationale, mise en place par des instances nationales, CEA, EDF, et où finalement l'étendue géographique de la France était traitée de façon purement instrumentale, hein, comme une sorte de sol homogène, dans lequel ou naturalisé, si vous voulez, dans lequel on ne tient compte que des questions physiques. Je prends un exemple, là, de choisir Bure. Pour y enfouir les déchets, ça est présenté dans les justificatifs, c'est parce qu'il y a là la couche d'argile, hein, qui est l'endroit suffisamment profond, qui isole. Bon. Le problème, c'est qu'il y a cette couche d'argile sur tout le bassin parisien. Alors, pourquoi Bure ? Bah, d'abord, parce que c'est un des endroits les moins peuplés de France, et que donc, bah, on ne risque pas, justement, de se heurter à des gens qui sont attachés à leur territoire. Donc, si vous voulez, la vision nationale avec un rapport uniquement instrumental et naturalisant à un sol dont on ne voit que les considérations géographiques, et d'autre part, une vision du milieu de vie où on est, qui compte. Et j'ajouterais, alors ça a été justement, je me souviens, c'était à Lyon où le géographe, là, Romain Garcier, était intervenu et où, comme c'était moi qui l'avais choisi, les représentants d'EDF étaient absolument sûrs qu'il allait faire une critique féroce du nucléaire. Et bien pas du tout. Alors ça, ils étaient surpris. Romain Garcier leur a montré qu'à partir du moment où la question nucléaire est territorialisée, alors c'est là effectivement qu'on s'inquiète des risques, qu'on regarde l'eau, mais c'est là aussi qu'on peut s'attacher à sa centrale nucléaire. Hein. Et comment autour de Fessenheim, par exemple, il peut y avoir des formes de... ça a été très étudié, ça, et en particulier il y a longtemps, mais dans l'Ouest... Hein, comment il peut y avoir une forme d'accoutumance et d'attachement des ouvriers du nucléaire à leur centrale et à l'environnement de leur centrale. Donc, ce n'est pas pour ou contre ces deux rapports complètement différents, l'un qui a un territoire naturalisé et l'autre qui est à l'environnement comme milieu de vie, hein, ou dans tout. Disons dans une perspective qu'on pourrait dire à la Bruno Latour, hein, il n'y a pas de séparation entre nature et société. Hein, il y a un continuum de naturel et de social. Et donc à partir de là, vous avez deux conceptions, je vous disais, de l'environnement. D'un côté, ce que j'appellerais ce qui est la conception officielle, hein, l'environnement comme un ensemble de données qui peuvent être objectivées par un travail scientifique rapporté par des experts. Et l'environnement, c'est un domaine parmi d'autres. Il y a l'environnement, il y a l'urbanisme, il y a l'aménagement. Et puis, vous avez l'autre conception, hein, l'environnement comme un milieu, comme un endroit de relation d'humain et de non-humain, qui concerne non pas l'instrumentalisation du monde, mais son habitabilité, c'est-à-dire le rapport d'attachement que j'établis avec le sol d'attachement ou de répulsion, hein, avec le sol sur lequel je me trouve. Alors, vous voyez que dans le premier cas, la question environnementale est une question essentiellement technique, hein, faite de données techniques. Ça peut être fait très sérieusement, mais on ne voit que ça. Et alors que dans le deuxième sens, c'est une question politique. Hein, et c'est là-dessus qu'Alon Lascoub et Barthes élaborent ce qu'ils appellent leur conception du forum hybride. Hein. Il y a d'une part... le traitement technique, et ce traitement technique passe à côté de tout ce qui fait de la question environnementale une question complexe, ouverte, de milieu de vie, et qui pour ça est une question politique et pas seulement technique. Alors, j'en viens au dernier point. Ouais, je me suis un peu rattrapée, c'est bon. J'en viens au dernier point, qui est la question de la gouvernance. Alors, là aussi, c'est un mot, c'est pas un mot qu'on avait choisi. C'est pas exactement un mot qui a émergé, ou plutôt il a émergé dans les membres de la CPDP, et puis on avait des gens autour hein, qui étaient sur des trucs liés. C'est quand on a eu en vue la fin, hein, on se dirigeait vers une séance conclusive, et à ce moment-là, la question, le droit de la démocratie environnementale, de participation à la décision et encore plus de contrôle de l'exécution commençait à se poser. C'est-à-dire la question était, une fois ce plan national de gestion des matières et déchets nucléaires, une fois qu'on l'a élaboré, je vais revenir sur un certain nombre d'éléments quand même, ben, comment ce plan va-t-on contrôler son exécution ? Quel type de, et c'est là que le mot de gouvernance est venu, quel type de gouvernance pour le PNGMDR ? Alors, PN, je reviens, hein, je sors de mes sigles technocratiques, c'est plan national de gestion, terme totalement technique de management. La question était celle de la gouvernance. Est-ce qu'il y a une gouvernance de la gestion ? Est-ce que ça introduit la démocratie de parler de gouvernance de la gestion ? Alors, très rapidement sur le vocabulaire, je vous rappelle que le terme de gouvernance, c'est un terme qui existe en vieux français, mais en fait qui n'est pas employé, un petit peu comme l'environnement d'ailleurs, et qui réémerge en revenant de l'anglais, du governance, et dans les années 1990, et c'est typiquement du vocabulaire, si je puis dire, d'école de commerce hein, ou de management, c'est du vocabulaire du management, avec un double aspect. On dit gouvernance pour ne pas dire gouvernement. Gouvernement, alors là aussi c'est un vieux mot qui peut s'appliquer aussi bien, Foucault avait fait des tas de choses sur le gouvernement, c'est un vieux mot, mais c'est un mot, disons, de l'autorité verticale, hein, quand dans, je ne sais plus quelle pièce de Corneille, dans Cinna, Auguste dit « je suis maître de moi comme de l'univers hein, », c'est un modèle du gouvernement, c'est un modèle de la maîtrise de soi, qui peut être transposé à un niveau global comme modèle du gouvernement, donc c'est l'imposition d'une autorité par le haut. La gouvernance, comme processus, comme terme venant du management, est un terme beaucoup plus horizontal. Mais du coup, il tourne des deux côtés, vers la gestion, c'est-à-dire où on va traiter les humains comme des choses, hein, pour parler comme le socialiste utopiste Comte de Saint-Simon, on va passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Hein, il y a un modèle de gouvernance qui est un modèle où on va gérer les gens comme des choses. Et puis aussi l'horizontalité, ça vous donne des formes de démocratie où ce n'est pas le Kratos qui compte, ce n'est pas l'autorité verticale, ça vous donne des formes, au contraire, d'ouverture, de mise en réseau. Et donc, il peut y avoir une signification démocratique de la gouvernance. Alors, je crois que dans le débat, on a vu les deux sens. Et on a vu à la fois le sens gestionnaire et on a vu le sens démocratique. Et je terminerai là-dessus, j'en ai pour 10 minutes à peu près. Comme je vous ai dit, on a eu des débats de toutes sortes. On en a eu qui n'ont pas pu se tenir parce qu'ils ont été boycottés de façon à ce qu'ils ne se tiennent pas. On en a eu, bon, comme à Caen, où ça s'est passé sans difficulté aucune. Puis on en a eu d'intermédiaires. Hein. Comme je vous ai dit, les questions nucléaires sont des questions clivantes. Et qui provoque des conflits. Et de ce point de vue-là, pour un certain nombre d'associations, il n'y avait pas de position de débat possible, parce que participer au débat, c'était soutenir une politique nucléaire contre laquelle ces associations s'inscrivaient en faux, et plus encore, quand on voyait la répression énorme qu'il y avait à Bure, hein, où en fait un certain nombre de gens mobilisés contre le CIGEO étaient en prison, et bien aller à un débat, c'était accepter la politique répressive, et il n'y a pas de débat possible quand il y a de la répression. Donc il y avait ce genre d'opposition, et je vous dis, ça faisait tout un type de réunion qui allait de « oui, il n'y a pas de problème », on débat vraiment, non, il n'y aura pas de débat. Bon, parce que c'est très très facile d'empêcher un débat, il ne faut pas être grand maître en subversion. Et puis il y avait l'entre-deux, parce que aussi, on se rendait compte que on pouvait... Une réunion, ça avait été le cas à Gravelines, là, près de Dunkerque, enfin la plus grosse centrale nucléaire de France, où ça a commencé en boycott, et puis on a grâce à la présidente, Arèle Dutirou, on a réussi à renverser ça en discussion, au moment où on a demandé à ceux qui boycottaient, mais pourquoi vous boycottez ? Et qu'ils ont commencé à expliquer, à ce moment-là, à pu débattre, et d'ailleurs parler d'autres choses que ce qu'on avait prévu. Bon, pour vous dire qu'il y avait toutes les positions. Mais j'en prendrai une qui a été intermédiaire à Lyon, c'était sur les risques, le thème c'était les risques, et on a alterné entre débat et boycott. Voilà. Entre, il y a tellement de bruit qu'on ne peut rien faire, on peut discuter, donner la parole à certains, etc. Et il y avait sur la tribune, dans ceux qui organisaient le débat, le directeur général de l'énergie au ministère de l'écologie, qui manifestait un énervement complet. Alors, je vous dis, c'est des gens qui ne sont pas très habitués au débat public. Ils sont pas à l'aise, c'est un petit peu une corvée. Bon, ils savent qu'il faut y aller, mais bon, ça ne leur plaît pas des masses. C'est aussi parce que lui, il en attendait quelque chose et qu'il trouvait qu'il perdait son temps. Parce que qu'est-ce qu'il en attendait des débats ? Ce que j'appellerais une sorte d'ingénierie du débat écologique, c'est-à-dire une sorte de critique interne ou d'autocritique du caractère trop administratif de ces procédures, et que donc en intégrant des débats publics, peut-être on peut intégrer des idées, mettre à voir à l'usage, et donc tirer profit pour la bonne gestion des matières et déchets radioactifs du débat public. Mais pour ça, il faut que le débat reste très cantonné sur des questions qui sont uniquement des questions d'application. Ce qui était d'une certaine façon le PNGMDR, étant donné que, si vous voulez, dans le débat sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs intervenait alors que la décision d'embrouillement à CIGEO a été prise, donc on ne pouvait pas en discuter, que le plan pluriannuel de l'énergie, sur l'énergie, donc qui décide du mix énergétique, venait d'être décidé, il ne restait plus grand-chose à décider, sinon à trouver des modalités du genre, est-ce qu'on va, les déchets de démantèlement de centrales nucléaires, les très faible radioactivité et pas une vie très longue, est-ce qu'on les maintient à part ou bien est-ce qu'on va faire des routes avec ? Bon, c'est pas très dangereux, on peut bien les mettre. De toute façon, en Bretagne, il y a autant de radioactivité naturelle, donc c'est pas un problème pour ce genre de choses. Bon, ça posait pas des questions de justice, ça posait pas des questions de génération future, mais ça pouvait être important pour un gestionnaire. Et puis de l'autre côté, il y avait l'autre conception de la gouvernance, qui était cette question, une conception beaucoup plus ouverte du débat, et si vous voulez, qui se manifestait dans toutes ces formes de débat, qui, je vous dis, pouvaient aller de un débat ouvert avec, bon, c'est jamais complètement harmonieux, mais avec des discussions maîtrisables, ou au contraire, l'impossibilité de tenir. Et puis tous les entre-deux qui étaient finalement le plus intéressant. Moi, je me souviens que près de Bure, c'était parti pour un boycott. Et puis il y avait là une responsable de la CGT qui avait une longue habitude des débats et qui a réussi à retourner les boycotteurs. Alors elle était à fond pour le nucléaire. Et ce n'était pas la question. Hein. Elle a su faire... De faire en sorte que... Ben, qu'est-ce qu'il fallait, ce que Harel Dutirou a fait après à Gravelines ? Faire en sorte qu'on puisse débattre de la raison pour laquelle on ne veut pas débattre. À partir de là, le débat est ouvert. Alors, je dirais, pour terminer là-dessus et pour arriver à une conclusion... Je dirais que je ne sais pas si vous connaissez le c'est pas vraiment sociologique, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que Albert Hirschman, vous savez, Albert Hirschman est un économiste, bon, qui a travaillé sur des questions de développement, et beaucoup lui aussi d'ailleurs entre le management et la politique. Hein, et c'est là qu'il sort son modèle de exit voice. Hein, comment on dirait en français, sortie ou participation, hein, exit. Je vais vous donner un exemple. Alors, il le donne à la fois, il le montre à la fois pour des questions de consommation. Devant un produit, il y a un produit commercial qui ne plaît pas, il y a deux possibilités, qui est d'aller prendre la parole, en discuter, et puis il y a le boycott, on sort. Mais c'est aussi, il appliquait ça, il écrit ça, enfin, il reprend l'article qu'il avait fait sur Exit Voice au moment de, en 1989, au moment de la fin de des pays socialistes et en particulier en Allemagne, où il montre que dans l'Allemagne de l'Est, on est passé de Exit, on va fuir, hein, on va passer à l'Ouest. Au fur et à mesure qu'on approche de la fin, à voice, hein, à la prise de parole, alors d'abord dans les cercles protestants, puis qui s'amplifie. Hein, puis, alors après, on pourra dire, bon, c'est un exit massif, mais à ce moment-là, c'est plus du exit. Et donc, les débats, ils étaient entre boycott, qui est du type exit, et prise de parole. Et ça dépendait beaucoup de la façon dont le débat a été mené. Hein. Il y a eu, avant le débat auquel j'ai participé, sur le PNGMDR en 2018-2019, il y a eu deux autres débats. Hein. La loi Bataille de 1991 va entraîner en 2005 un premier débat où là, on n'a pas encore décidé si on enfouit ou si on continue à entreposer. Alors, c'est un débat qui se passe plutôt bien. Le problème, c'est qu'il aboutit à des choix, à proposer, hein, des choix d'entreposement, et en fait, la loi prend exactement le parti adverse. Donc c'était aussi une des raisons des gens, en 2019, de dire, on nous a eu en 2005, bon, et les décisions prises ont été à l'inverse, on ne va pas recommencer à nous avoir. Parce qu'en 2013... Il y a un débat là sur CIGEO, bon, donc la mise en place, le projet d'enfouissement à Bure. Et là, ça va être un exit par incompréhension de voice. Je m'explique. On nous a projeté l'enregistrement du débat, bon, qui est tenu par un... Ça a l'air d'un vieux sénateur, un peu. Hein, bon. Et donc, il tient son débat... Et puis là-dessus, il y a des gens qui se mettent à lever la main au fond de la salle. Alors, c'est une salle beaucoup plus grande que ça. Et ben, ils traitent ça comme si c'était du bruit, du genre taisez-vous. Au bout de ça, le bruit devient tel qu'il faut lever la séance. C'est-à-dire que quelque chose qu'il aurait pu entendre comme une parole, comme une demande, et c'était une demande de prise de parole, il l'a entendu comme du bruit. Inversement, si on entend... ce qui est au début du bruit, si on y voit une parole possible, c'est là que ça bascule entre exit et voice.
Alors, troisième modalité, oui. La loyalty.
Il y a loyalty. Alors, on va y venir.
Je cherche la traduction française.
Prise de parole, non ?
Prise de parole, oui.
Hein ? Voice, c'est prise de parole. Et exit, c'est défection.
Défection.
Ce qui n'est pas très juste, parce que ça a côté trahison. Exit, c'est... Bon. Et c'est défection, ça y est, ça me revient.
Défection et prise de parole.
Et loyauté.
Loyauté, il n'y a pas dans le titre de la traduction française.
Oui, mais dans le texte de Hirschman, il y a... Alors, je conclue, hein. Je conclue très provisoirement. Je veux dire, c'est une conclusion qui reste ouverte, mais c'est justement pour dire quand même quelque chose. Si vous vous souvenez, hein, je vous ai dit, il y a deux interprétations contradictoires complètement du rapport entre écologie et démocratie. Il y a ce qui, pour moi, est une illusion du caractère inéluctablement autoritaire. Et puis, il y a, d'autre part, au contraire, l'idée que l'écologie est l'occasion d'invention démocratique. Alors, si je reprends l'exemple qui n'est pas forcément généralisable, mais ce qu'on peut retirer de ce débat, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui se voit, et qui se voit, je vous dis, dans l'attitude de la DG, de la Direction Générale de l'Énergie au ministère de l'Écologie, dans l'attitude... Bon, il y a, on peut dire, que le nucléaire est en France l'objet d'une politique autoritaire, antidémocratique. J'ajoute quelques éléments. Hein, je vous ai dit, il y a une si longue tradition de secret. Hein, ça se met en place. La première centrale fonctionnante, c'est en 1956, donc un peu avant le gaullisme. C'est essentiellement l'élaboration gaulliste. Et ça se fait, c'est uniquement le président de la République. Hein. C'est même pas débattu en assemblée législative, sans parler de débat populaire. C'est là que je dis qu'il y a une grande tradition de secret, fondée sur des corps institutionnels, corps d'État ou recherche, hein, CEA, l'ASN, etc. Donc, des politiques autoritaires, antidémocratiques, et qui ne respectent pas les procédures légales. Il y a eu la plainte d'une députée qui avait commencé en étant en marche, là, et puis qui en est sortie, montrant que ce PNGMDR qui avait été examiné, il aurait dû être accepté ou non par le Parlement et le Sénat. Ça n'a pas été fait. Donc, ils ne respectent pas les procédures légales. Bon, et je pourrais parler je faisais allusion au débat public qu'a dirigé Michel Badré sur le nouveau nucléaire redécidé par... symboliquement, quelques jours avant le débat final... Une décision a été prise sur le gouvernement qui rendait ce débat final sans objet. Ça n'a pas été un hasard. C'est une façon de dire qu'on s'en moque. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire... Hein, ce que je vous disais au début, c'est quoi cette tendance autoritaire des politiques écologiques ? C'est ce que j'appellerais, appelons ça technocratique, c'est un peu rapide, hein, mais cette articulation expert, scientifique transformé en expert avec décideur, prenant en dehors de toute procédure de concertation des décisions qu'on applique. Pour moi, il est là, le danger. Si danger autoritaire, il y a là. Alors, il y a des... Bon, on voit qu'il y a quelque chose comme des efforts. Alors, c'est de démocratie environnementale. Alors, je vous ai parlé d'ingénierie politique. Il y a, bien sûr, des mouvements beaucoup plus... autonome. Hein. Quand je vous parlais d'Albert Auger, la façon dont il caractérisait les initiatives citoyennes autonomes, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Mais bon, il y a des possibilités. Il reste beaucoup à faire pour qu'elles deviennent une réalité. Bon, j'arrête là. Merci.